Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée. Jean-Benoît Gagné avec vous, votre animateur, et pour m'accompagner, avec lequel je commence, je ne le sais pas, allons-y au hasard. Luc Desormeaux est avec nous. Salut Luc.
Bonsoir.
Le spécialiste automobile.
Oh, le spécialiste électroménager, c'est pas moi.
C'est Tanguay.
C'est Corbeil.
Oui, je sais, c'était voulu de pas le dire le bon.
Okay. Ben, ça dépend de ce que t'es finalement, parce que oui, à Québec, c'est Tanguay, je pense.
Oui, ben pas mal, ouais. La famille Tanguay est très, 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 très impliquée dans le secteur. Et l'autre qui complète le trio. Qui fait partie des meubles, oui. L'autre qui complète ce trio, cette triforce du podcasting, Daniel Carosella est avec nous. Salut, Daniel.
Salut, Jean-Benoît. Donc, moi, je me considère plus comme une lampe parce que je suis lumineux. Ah. Surtout dans vos cœurs.
T'es tellement céleste en plus. C'est comme Dieu, tu sais. C'est comme tout ça dans la même lignée, tu sais. Il y a de quoi de féerique quand on est avec toi.
Ah, c'était carré. Écoute, je le sais. Je sais que vous vous sentez privilégié, puis je vous comprends.
Ah. Écoute, là, je me suis dit, les boys, là, ça fait comme 55 éléments qu'on fait de la réalité augmentée, puis. Honte à moi, j'ai oublié une base, c'est quoi la radio, tu sais, je suis dans le monde du podcasting, puis tu sais, je suis quand même animateur de radio dans la vraie vie, puis j'ai oublié une base. Faut toujours mentionner c'est quoi le concept de l'émission au départ, sinon c'est pas crédible, c'est pas correct. JB, je me tape ça à la main. Réalité augmentée, c'est trois caves qui parlent de sujets intéressants avec des propos parfois décousus et un peu d'humour et qui en font des analyses. Apprendre au sérieux, ça ça dépend de vous autres. Ça dépend vraiment de vous autres. Donc voilà, c'est ça le concept de la réalité augmentée. Ça vous convient-tu, les boys?
Moi je dirais apprendre avec un grain de sel.
Mais... Oui, tout à fait. Prochain élément, on continue dans cette vague de conformisation envers la radio commerciale. On commence les sujets en applaudissant et on va embaucher un humoriste. Ça s'en vient.
OK. Je pensais qu'on avait déjà un humoriste, toi.
Ah, quelle bonne blague. Ceci étant dit, allons-y, justement, humour un peu, notre habitude, on la poursuit en décollant avec nos fails de la semaine, et Daniel a un 2-1 pour nous avec la thématique des Flappy Bird, et honte à moi, deuxième depuis le début du show, ça fait comme même pas 5 minutes, déjà j'ai honte deux fois, je connaissais pas Flappy Bird avant que Daniel m'en parle. Je sais pas où j'étais sur la planète geek, je sais pas si c'est une mauvaise chose d'avoir manqué ça ou une bonne. Je suis encore médusé de tout ça, mais il y a de quoi de particulier avec ça. Il y a du monde qui capote, là. Le jeu est disparu, puis ils veulent acheter des cellulaires qui ont le jeu dessus, puis ils sont prêts à payer du gros prix.
Ah, ils sont prêts à payer 1500 à 2000.
Aïe aïe!
Ben oui, 1500$ à 2000$. Mais en fait, 1500 à 2000$ pour un cellulaire où il y a un jeu qui n'est plus là. C'est quoi? C'est pas dans tes budgets ou.
C'est pas dans mes priorités, je dois avouer, là.
Ben écoute, ça a l'air qu'il y a certaines personnes que oui, parce que quand le créateur de Flappy Bird, puis ça sera mon 2-1 là, au niveau de ce fameux créateur-là, a enlevé Flappy Bird du marché virtuel, là, parce que le jeu était juste disponible en ligne là, pour plateforme mobile, ben il y a des gens qui se sont dit, ben il y a une pièce à faire là, puis même 2$, puis même peut-être 1000$, fait qu'ils ont mis leur cellulaire en vente sur eBay, à des prix, en tout cas, qui dépassent l'entendement.
Ouais, c'est exponentiel.
Ah, c'est débile, là. Tu sais, je veux dire, tu mets un cellulaire en vente 1500 à 2000$, et pourquoi tu paierais ce prix-là? Parce qu'il y a Flappy Bird dessus.
Yeah.
Donc, un jeu qui est pas très bon. Là,
non. Pas...
Je le sais qu'il y en a là, qui ont accroché, là, puis c'est correct que je vous respecte là-dedans. Là. Il n'y a pas de problème si vous avez accroché à ce jeu-là. Mais on s'entend que le concept est assez simple, puis c'est pas le jeu révolutionnaire.
Hey, j'ai vu quelques images, une petite vidéo là, de comment que ça fonctionnait ce jeu-là. Tu dois éviter là, des tuyaux à la Mario Bros avec un oiseau qui, comme en tapotant, là, ça le fait. Il donnait un petit pousser, là, c'est comme s'il battait de l'aile pour remonter un peu. C'est-tu moi où ça ressemble énormément à Joyride Jetpack, en affaire de même, là, je me rappelle pas c'est quoi le nom.
Jetpack Joyride.
Ouais, exact. Côté mécanique de jeu, c'est exactement ça, là.
Ben, il n'y a rien de nouveau dans Flappy Bird. Je veux dire, tu regardes la mécanique de jeu, puis effectivement, ça ressemble à Jetpack Joyride. Tu regardes les graphiques, c'est tiré de d'autres jeux, dont les fameux tuyaux que tu dois éviter, qui sont, comme par hasard, issus d'un certain Mario Bros. Donc, il n'y a rien de nouveau. Puis, tu sais, je veux dire, même le petit oiseau, là, on s'entend que c'est un paquet de pixels... assez grossier, merci, de jaune et de blanc réunis ensemble. Là. Donc, tu sais, c'est pas un concept original, c'est pas... Est-ce que c'est un bon concept? Ben ça, c'est matière à débat, puis je pense qu'il y en a qui ont aimé, puis il y en a qui ont détesté. Ça, c'est correct. Les goûts sont dans la nature, mais de là à payer 1500 à 2000$ pour un cellulaire qui contient Flappy Bird, calmez-vous les nerfs, s'il vous plaît. Pourquoi que le jeu a été retiré, ça c'est mon fameux 2 pour 1, c'est que le créateur du jeu, dans toute sa bonté, dans toute son âme humaniste, a voulu retirer le jeu pour nous prévenir de la dépendance qu'il pourrait créer.
Ouais, oui, hein.
Donc, c'est ça la raison pourquoi Flappy Bird n'est plus sur le Apple Store ou encore sur le Google Store, whatever. Donc, c'est pour ça. C'est parce que nous, pauvres petits humains et joueurs qu'on est, on n'est pas capable de se contrôler. Flappy Bird aurait pu créer une dépendance qui aurait affecté notre productivité.
J'aimerais ça dire que t'as raison en disant qu'on n'est pas capable. Tu sais, qu'on est capable de se contrôler, mais je regarde le succès de Candy Crush. Et je me dis qu'il y a peut-être pas tard. Faut peut-être contrôler l'être humain parce que des fois, là, ça passe tout douette, hein?
Mais oui, mais là, écoute, mais on s'entend que c'est réduire l'humain à pas grand-chose, là. mais j'ai juste trouvé la raison un peu particulière, là. Puis tant qu'à moi, quand t'es accro à un jeu comme ça au point là, que tu peux plus rien faire d'autre de ta vie, je sais pas, là. Il y a des cliniques maintenant. Spécialisé en dépendance de jeux vidéo, hein, donc.
Il existe des soins pour. Ouais. D'ailleurs, moi là, j'en ai un fail aussi. J'aime ça cette chronique là, ça on jase, on a du fun, puis on peut rire de l'être humain. Et Dieu seul sait comment est-ce qu'on a de la place pour en rigoler. On a de la marge de manœuvre. Connaissez-vous le studio les boys, Coffee Stain Studios?
Bien sûr.
Oui, hein? Ouais. Ils ont lancé une vidéo il y a quelques temps pour présenter leur moteur graphique. Une vidéo, somme toute, assez intéressante, très, très jolie. On s'entend que c'est pour vendre leur moteur graphique. Et dans celui-ci, on voit des décors, forêts, des pâturages, des champs et des chèvres. Et là, ben, la mode pognée ces réseaux sociaux. Les gens voulaient pouvoir camper les chèvres dans un Goat Simulator. Et devinez
quoi.
Je l'ai vu.
Et devinez quoi?
Ils l'ont fait.
Ils vont le faire.
Ah ouais.
Goat Simulator sera en vente éventuellement. Okay, on peut le précommander dès maintenant sur le site de Coffee Stain Studios au coût de 9,99$. Oui, 10$ pour camper le rôle d'une chèvre.
J'espère qu'il va y avoir des prédateurs, il va falloir que tu te sauves ou quelque chose ou...
Imagine, OK?
Je garde certaines pensées pour moi, là, parce que c'est quand même un show pour la famille.
Non, mais imagine, Luc, OK? On campe le rôle d'une chèvre.
Je peux imaginer bien des affaires.
Non, mais attends, là, je t'amène quelque part.
Oui.
OK, tu campes le rôle d'une chèvre, mais une chèvre domestiquée. Tu sais, dans le fond, elle est dans un pâturage gardé par un berger, tu sais, qui va...
Ou un chien, genre un chien
ouais, c'est ça. Mais tu sais, clôturé, là.
Ouais.
À un moment donné, la simulation, à part te gratter, manger, dormir...
Attendre que le gazon pousse, puis le recouper.
Ouais, mais tu sais, le reste des activités qu'une chèvre fait, veut-on vraiment les simuler et les jouer? Tu sais, puis là, je vous laisse imaginer là, les options là, de gameplay possibles.
Ouais, puis on va juste les imaginer.
Oui, oui, non, j'irai pas plus loin, là. Mais veut-on vraiment... Pour vrai, là, l'être humain, là, ça fait des milliers d'années qu'on évolue hein, pour devenir cette espèce, tu sais, le prédateur ultime, tu sais, au top du top de la chaîne alimentaire, tu sais, de la chaîne de l'évolution pour contrôler le monde. On fait des bien belles grosses affaires dans la vie, tu sais, on va dans l'espace. Tout ça,
ouais.
Tout ça, cette évolution pour finir par camper une chèvre dans un jeu.
Ouais, c'est assez du n'importe quoi, mais gars, ça va peut-être être la version chef du jeu Worms. Puis avec des bazookas, pis tout, regarde.
Peut-être.
On peut toujours rêver, là.
Et moi, j'ai lu quelques commentaires. Il y a du monde qui ont fait comme, ouais, mais tu sais, dans GTA V, on campait bien un chien. Ah, là, la comparaison est assez boiteuse.
tu campais un chien pendant peut-être un certain laps de temps. Là, t'es une chèvre pour la durée du jeu, à moins que ça fasse partie de l'évolution, puis qu'à un moment donné, tu deviennes un être humain. Hein.
Ah, peut-être, je sais pas, là.
Non. Mais je pense pas que la chèvre était dans le chemin d'évolution de l'être humain. Là.
Pas vraiment.
Non, mais écoute, de ce que j'ai vu, t'en défonces de la clôture, en tout cas, des vidéos qu'on a vues.
Ah ouais, tu peux défoncer de la clôture.
Oui, écoute,
quoi, la chèvre de compète.
Moi, je pense qu'on va cruiser du fermier.
Ah, peut-être. Oh boy, c'est dangereux.
Je m'en allais pas là, moi. Je t'ai dit, je gardais ça pour moi.
Non, mais c'est la chèvre qui cruise, on s'entend. Là.
Ouais, mais celui qui va passer à l'attaque, c'est le fermier.
C'est ça.
C'est bon. On peut-tu comme avancer sur un autre sujet?
Mais
avant
non.
Que ça vienne trop glissant.
Ah, bah, oui, donc, moi, non, mais je l'avais vu, Goat Simulator. M'a t'avoué que. Ben, écoute, il y avait quand même des simulations. J'avais vu ça à un moment donné de tondeuses aussi. Là.
Oui, oui, mais il y en a plein là, en Europe là, qui se développent. Chauffeur d'autobus, t'en as là, de train, t'en as de cyclisme.
J'ai vu une affaire l'autre jour, c'était Woodmill Simulator. Fait que t'es un bûcheron, tu coupes des arbres, après ça, t'es amènes dans ta scierie, puis là, t'es coupes. Puis le genre de point vendeur du jeu, c'est suivez l'évolution d'un bio ou quelque chose de même. C'est genre, puis c'est marqué comme 14,99. C'est comme quoi? Tu veux, je te donne un 15$ durement gagné. Pour ça, je vais aller me payer un lunch au restaurant à la place.
Puis tu sais, pour vrai, j'en ai vu d'autres. Là, c'est le joueur du grenier qui a fait un spécial sur les simulateurs. Là. Et les bugs là-dedans, là, c'était comme hallucinant. Là. Des affaires genre que les autos jump, puis il n'y a plus de gravité. Ou dans le fond, la vitesse est capée vers l'avant. T'sais, quand tu vas de l'avant avec ton véhicule, il y a une vitesse maximale que le véhicule peut aller. Mais que les développeurs ont oublié de mettre un cap au reculon. Fait que tu peux aller genre à 1 million de kilomètres heure genre en allant de reculon. Là. Tu sais, des affaires de même, là. Ben niaiseuses. Puis là, tu te dis, mais s'ils en font plusieurs, c'est parce qu'ils en vendent.
Ben oui,
c'est le public c'est pour ça. C'est ça qui est le pays, puis ça doit toujours utiliser le même engin graphique, probablement le même monde qu'ils ont déjà créé, ils ont juste à changer ce qu'ils mettent dedans. Fait que ça doit pas coûter si cher que ça à développer,
ben non,
puis ils vendent ça 15$, puis quelqu'un va se dire, à un moment donné, juste en joke, m'acheter ça pour le fun. Puis ils ont fait 15$ sur ton dos. Tu sais, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Moi, je vous dis, on va se mettre à. On va se jaser après le show, là, puis j'ai des idées. On va faire le Grass Growing Simulator. Puis après ça, on va faire le Watching Paint Dry Simulator. Fait qu'on va regarder de la peinture sécher, puis on va regarder du gazon pousser. On va être millionnaire.
Ah ouais, non, ça va être génial. Pour vrai, c'est une idée qui révolutionne l'humanité. Là.
Ouais, tu sais, moi, j'ai toute mon idée. Le Grass Growing Simulator, là, t'es un redneck quelque part au Kentucky, assis sur sa galerie, qui se berce.
Tu chasses les bébites avec ton gun, tu sais.
Non, tu fais juste te bercer, tu sais, avec un bout de foin dans la bouche, puis tu regardes le gazon pousser.
Tu peux même pas les flatter ou les pénis du côté. Non, il n'y a rien.
Non, tu peux juste contrôler en appuyant sur le A de ta manette, tu peux contrôler à quelle vitesse tu te berces.
Ah, OK.
Puis tourner ta tête de gauche à droite.
Il y a une mini-game, c'est faut que tu payes sur le bon rythme du berçage pour avoir la bonne séquence puis débloquer genre un succès. Là.
Les quick time events.
Okay, en tout cas,
ça va nulle part. En plus,
EA, si t'as besoin d'idées, on est là.
On est là pour toi. On va mettre des DLC aussi, différentes couleurs de gazon, tout ça. OK, on peut passer à d'autres choses.
Oui, on peut,
On peut enchaîner.
Peux-tu arrêter d'être dans la partie sérieuse du show puis se faire du fun un peu?
Exact, oui, arrêtons. Là, ça doit être plate pour les auditeurs d'écouter du monde drap de même.
Ouais, moi, mes idées d'entrepreneuriat, là, ça n'intéresse personne.
En tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut reprendre le concept, on est ouvert à discussion.
Ouais.
Allons-y avec le premier sujet de la semaine. Thématique un peu cinéma, cette fois-ci, dans la réalité augmentée, alors qu'on aura deux films. Je vais vous parler du nouveau Robocop dans quelques minutes, mais Mais avant, Luc nous propose Mission Dindon. Tu sais, quand tu parles de films sérieux, c'est encore une fois un autre exemple. Film familial d'animation. Est-ce que ça atteint sa cible? On le saura avec toi, Luc.
On pourrait partir un simulateur de dindon aussi.
Ben, moi, je pensais que c'était dans le même potet, tu sais, dans le même verger que les chèvres, tu sais.
Ouais, mais c'est peut-être un petit peu à côté, là.
Peut-être.
Ben, c'est ça. Donc, Mission Dindon, c'est un film familial. C'est dessin animé, c'était 3D au cinéma. Moi, je l'ai vu à la maison, pas en 3D. Parce que quand j'ai vu les bandes annonces à la télévision, je me suis dit, pas sûr que je paierais 40$ avec le popcorn pis tout pour amener la famille voir ça. On le verra quand ça va sortir en DVD. Ce qui m'a surpris en partant, c'est que il est sorti le film tout de suite après sa sortie en salle, parce que normalement, c'est le genre de film où on traite la chèvre, qu'on pourrait dire, deux fois, c'est qu'on fait de l'argent au cinéma. Après ça, ben, on sortit un petit peu, puis on le ressort plus tard en DVD, mais genre à l'Action de grâce de l'année d'après. C'est le modèle commun des films de Noël. Hein, un film de Noël sort au cinéma pour le temps des fêtes, puis après ça, on le retire. Puis, oh, comme par magie, il apparaît à Noël prochain en DVD pour la maison. On fait deux fois de l'argent avec ça.
Sauf puis, que tu dépenses deux fois de l'argent pour la campagne de pub. Ils ont peut-être sauvé là-dessus en sortant le film tout de suite en DVD après, là.
Peut-être aussi, mais bon, ils ont peut-être perdu aussi un peu de vente, mais je sais pas. Mais c'est quand même un film qui a coûté, bon, 55 millions, un budget de 55 millions, puis il a quand même fait 81 millions. Donc, c'est rentré dans son argent. Ça dure 91 minutes. Bon, en anglais, il y a des voix de personnages quand même assez connus. Il y a Owen Wilson, qui joue là-dedans. Il y a Woody Harrelson, puis il y a aussi le très connu George Takei. Ceux qui le connaissent pas de nom le connaissent de personnage, parce que c'est lui qui faisait Sulu dans la vieille série Star Trek.
Tellement drôle sur les réseaux sociaux, lui.
Lui, c'est un pété.
Ouais,
c'est,
vraiment, là.
C'est, il a sorti du garde-robe vraiment en s'annonçant comme étant gay. Puis c'est drôle parce qu'il joue la carte de ça. Puis il est juste drôle, là. Il est vraiment impressionnant. Puis quand tu l'entends parler, il est tellement pété, ce gars-là. C'est vraiment l'enfer. Il se cache de rien. Il a pas peur de dire ce qu'il est puis d'en parler ouvertement. Puis je trouve ça vraiment merveilleux qu'un gars aussi connu que ça, t'sais, soit tellement ouvert avec le monde, là. C'est vraiment bien, bien drôle. Puis c'est un personnage vraiment apprécié du monde geek, de l'univers geek. Donc, c'est lui qui il joue là-dedans. Il joue un personnage qui s'appelle Steve. Steve, mais n'est pas un personnage vraiment. Steve, c'est une machine à remonter dans le temps en forme d'œuf. Bon, ça va bien avec les dindes.
Oui, oui, oui.
Mais c'est un personnage qui est quand même vivant, qui est capable de tenir une discussion. Donc, c'est un personnage intelligent, même si c'est une intelligence artificielle. Puis c'est quand même très drôle ce qu'il fait dans le film. Donc, c'est quoi Mission Dindon? En anglais, ça s'appelle Free Birds. Et en version française de France, ça s'appelle Free Birds. Et puis nous autres, ça s'appelle Mission Dindon. Bon. Fait que les Français, tu sais, des fois, ils changent pas nécessairement toujours les titres. Nous autres, oui. Mission Dindon, ça fit quand même assez bien. Donc, quand on suit Reggie, qui est une dinde, ça tombe bien, c'est comme le prémisse du film. Puis, c'est la seule dinde de sa basse-cour qui est comme un petit peu intelligente. T'sais. Le film commence, on voit, c'est l'Action de grâce, c'est la Thanksgiving américaine qui est pas en même temps que l'Action de grâce canadienne, je vous rappellerai. On voit bon des humains qui fêtent l'Action de grâce et puis il y a une dinde cuite sur la table et puis le fermier approche pour commencer à découper la dinde et on voit Reggie, une dinde pas encore cuite, qui regarde la scène à travers la fenêtre totalement horrifié en se disant « c'est peut-être moi le prochain ». Et puis lui, c'est vraiment la seule dinde, comme je disais, de Sabasco qui est intelligent, un peu intelligente, c'est qui il va se dire « bon ben gars, les fermiers nous engraissent pour nous nourrir » et il se gêne pas à dire ça à ses congénères debout dans la basse-cour, à dire « regardez là, tu sais, quand ils nous apportent de la bouffe, là, restez-en loin, mangez un peu moins, soyez un peu moins grasses et peut-être que vous allez survivre parce que c'est les plus grasses normalement qui partent en premier. » Et puis il fait son long speech à la gang de peut-être 30 dindes dans la basse-cour. Et puis là, le fermier arrive avec du maïs, puis là, toutes les dindes survivent, ils disent « du maïs! » Puis ils partent à courir, puis ils vont manger. Fait que le speech a comme passé dans le bar. Donc, c'est ça. Donc, un moment donné, ils se ramassent tout à l'intérieur d'une. C'est ça. ça mousse tout à l'intérieur. Ça va pas.
La bâtisse, là, l'étable.
Ouais, ça mousse tout à l'intérieur d'une genre d'étable. Et puis, là, Reggie les essaie de leur expliquer, garde. Tu sais, je vous ai averti, ça va aller mal. À un moment donné, ils vont venir en chercher une de nous, puis il va y en avoir une qui va disparaître, puis il va se faire manger. Donc, bon, coup d'éclat, c'est... Là, il se passe probablement un an là-dedans, parce qu'on vient de voir l'action de grâce qui se passe, puis là, on voit comme une autre action de grâce.
C'est à tous les jours là-bas, dans cet univers.
C'est à tous les jours là-bas, on mange une dinde à chaque jour. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une espèce de tradition américaine où à chaque année, le président va dans une ferme à quelque part aux États-Unis et il va gracier une dinde. Donc, cette dinde-là ne sera jamais mangée. Donc, le président américain arrive à la ferme et est là pour choisir une dinde, mais toutes les dindes à l'intérieur de l'espèce de grange sont en train de penser que c'est la prochaine qui s'en vient se faire choisir. Donc, ils prennent Reggie au lieu de suivre ses ordres en disant « Regardez, quand ils vont ouvrir la porte, on sort tout en courant dans des sens différents, ils pourront pas tous nous pogner. » Mais au lieu de ça, ils disent « Bon, ben garde, on va régler le problème. On va lui donner Reggie qui rouvre la porte puis il sac dehors. » Il se fait ramasser par la petite fille du président et c'est lui qui devient la dinde graciée. Donc, on se transporte au camp David, qui est le camp où le président va quand il n'est pas à la Maison-Blanche. Et c'est vraiment, chaque président se ramasse là à un moment donné. C'est le camp présidentiel. Donc, il se ramasse là. Et puis là, il mène une vie de rêve pendant un certain temps où il découvre les joies de la pizza. Donc, il se commande la pizza, il regarde la télé. Il devient vraiment une dinde domestique. Si c'est possible. Mais
moi, j'avais une de mes amies au secondaire qui avait une poule. Elle avait un petit coq, là, qui s'appelait Piuk Piuk. C'est comme un autre chat, là, c'est toujours genre noireau quand il est noir, grisou quand il est gris, t'sais, des enfants la même. Là. Il s'appelait Piuk Piuk, puis je te dis, il écoutait, puis il ramenait pas le journal, là, mais il se faisait comprendre. Là.
OK, c'est bien. Donc,
merci de me dire que tu t'en fous, mais bon, je vais raconter. Non, bon.
C'est intéressant, moi je l'aurais appelé dîner, mais bon.
C'est bizarre comme anecdote, je
trouve. Ouais, un petit peu, c'est ça. Mais donc c'est ça, il vit une vie de rêve au camp David et avec la petite fille du président. Puis la petite fille du président est vraiment comme, elle doit avoir comme 4-5 ans peut-être. Puis elle est vraiment super intéressée. Puis à un moment donné, elle va faire quelque chose. Puis elle va tout de suite tomber endormie. Elle va dire « Ah, c'est beau, hein, j'ai le goût de faire. Ah, je m'endors tout d'un coup. Paf, elle tombe à terre. Elle s'endort. » Donc, on joue vraiment un peu avec l'absurde. Fait que Reggie mène une vie paisible et plein de pizza. On dirait quasiment un Ninja Turtle. Jusqu'à temps que Jake, un autre dindon, vienne le ramasser pour lui dire « Faut que tu m'aides. Il faut que tu viennes avec moi. On va sauver... » Pas une dinde, pas 12 dindes, mais toutes les dindes. Parce qu'on va aller arrêter l'action de grâce. On va s'arranger pour que l'action de grâce n'arrive jamais. Bon, tant qu'à faire, j'aurais été m'occuper de Noël en même temps, parce que Noël, jour de l'an, il y a de la dinde qui se mange là aussi. Mais bon, eux autres se concentrent sur l'action de grâce, c'est des dindes, faut pas quand même pas trop les en demander. Fait qu'une chose à la fois. Donc, il l'amène et, bon, comment Jake sait qu'il y a une machine à voyager dans le temps cachée dans une grange au camp David? Ce sera ce mystère. Mais là, Reggie croit pas du tout à ça et là, descendent dans un sous-sol très, très profond en dessous d'une grange et découvrent qu'il y a une base de l'armée américaine là avec des soldats qui se promènent tous en sous jaune-orange avec des casques complets comme si c'était des astronautes. J'imagine que les créateurs ont juste dit hey, « On créera pas 50 personnages avec des faces pis tout, le gamin, mets-le juste un costume de plastique avec un masque d'en face,
ben ouais.
Ça va être plus facile. » Donc, on voit pas vraiment le visage de ces personnages-là. On voit le président puis les personnages plus principaux, mais les autres, c'est comme pas vraiment important. Donc, ils descendent et découvrent Steve, qui est l'œuf. Les Américains sont sur le point d'envoyer le premier homme dans le passé ou dans voyager dans le temps. Et puis, c'est drôle parce que le gars, il est assis dans sa capsule. Puis, à la dernière seconde, il dit « Ben, dis pas, il va mourir. » L'autre se met à capoter. Finalement, il se rend jamais dans le temps. C'est les deux dindons qui prennent sa place. Et puis, comme dans la machine à remonter dans le temps, Steve, qui a l'air vraiment d'un œuf. Là. Et puis là, ils s'en vont pour sauver la première dinde dans les années 1600. C'est en 1621, si je me rappelle bien. Donc, ils s'en
avant
vont.
Avant ça, il n'y avait jamais une dinde qui avait été mangée. Jamais.
Ben, c'est ça. Mais l'action de grâce, on s'entend que c'est comme un génocide de dinde.
Oui.
C'est la journée où la dinde est comme hyper populaire. Donc, c'est ça. Donc, ils s'en vont là-bas et puis ils vont essayer de sauver, s'arranger pour que l'action de grâce n'ait jamais existé. Puis Jake est sur une mission parce qu'il a été parlé par la Dinde suprême, la grande Dinde qui est supposément le dieu des Dindes, qui a dit « T'as comme mission dans la vie d'aller sauver toutes les Dindes » et puis c'est ça. Donc, on va les suivre dans le passé. Il va y avoir une petite mademoiselle qui va venir s'intégrer dans leur groupe qui s'appelle Jenny, qui est une dinde des années 1600. Et puis, il y a aussi des Indiens. Les dindes sont un peu comme des Indiens dans ce temps-là. Puis, ça. Puis ils essayent de ne pas se faire manger par les humains, même s'ils sont déjà chassés et tout ça. Mais bon, pour l'action de grâce, c'est vraiment quelque chose entre les Américains puis les Indiens. Là, c'est un repas qu'ils veulent faire pour montrer qu'ils peuvent être de bonne foi et tout ça. Donc, on va essayer d'arrêter ça de manière diverse. Bon, c'est un film qui est comique à ses heures. Comme je disais, on joue vraiment sur l'absurde. On est là pour faire rire les enfants. C'est un film où on joue aussi dans quelque chose de vraiment dur à jouer dedans qui s'appelle Le Voyage dans le temps. La plupart des films de Voyage dans le temps, quand tu prends le temps de repenser au film, tu te dis, ben là, ça n'a pas d'allure. Dans ce film-là, c'est un ramassis de ça n'a pas d'allure quand on commence à essayer d'expliquer le pourquoi du quoi. Là.
Ouais, non, c'est ça, tu creuses pas.
Non, creuse vraiment flatte à la surface, puis prends pas tes ongles, creuse un peu parce que tu vas juste t'apercevoir que ça va.
Flatter, ça se peut que ça décape. Fait que, tu sais, attention. Ça.
Mais c'est vraiment fait pour amuser les enfants. Les enfants vont rire. Mon fils a vraiment aimé ce film-là. Il a ri. C'était bien correct. Les adultes, mettez votre cerveau à off, ceux qui ont besoin. Mais
arrête de me viser. C'est pas gentil.
Des fois, on n'a pas besoin. Mais ça dépend du niveau de fatigue. Mais c'est ça. Donc, c'est un film qui est intéressant. C'est un film qui est drôle. Attendez-vous pas trop à grand-chose. Les critiques sont pas super bonnes, mais c'est pas un mauvais film. C'est un bon film en location. C'est un pas pire investissement si vos enfants aiment beaucoup l'animation puis aiment les films un peu comiques absurdes. Ça peut être un bon achat, mais au cinéma, ça aurait été un film qui est assez dispendieux à aller voir pour ce que c'est. En 3D, ça aurait peut-être été bien. J'ai pas vu qu'on essayait trop d'utiliser le 3D pour juste nous mettre des effets dans le visage. Là. Fait que ça vaut la peine d'être vu. Il y a des milliers de films d'animation meilleurs que ça sur le marché depuis des années. Là. Mais si vous l'avez pas vu, vous avez le goût de regarder un petit film en famille un samedi ou un dimanche, tranquille, avec du popcorn puis des bonbons, ben allez-vous louer ça. Je vais lui donner un moyen 6.5 okay. sur 10.
C'est pas un gros 6.
Non, c'est bon, mais faut pas avoir les attentes trop hautes. T'sais, mais c'est correct. Les personnages sont drôles, mais on joue beaucoup sur. Comme disons, on joue beaucoup sur l'absurde. Fait que des fois, c'est des blagues vraiment enfantines. Mais faut être clair, le public cible, c'est pas les adultes.
Non.
Parce que si le public cible de ce film-là était les adultes, on aurait mieux creusé l'histoire de Voyage dans le temps. T'sais? Tandis que les enfants vont regarder ça et dire hey, c'est drôle, tu sais, c'est ça. Mais les parents, on se regarde et on se dit il y a Anguille sous roche.
Ouais, c'est ça, il y a une couple de questions qu'on devrait se poser.
Ouais, c'est ça. Fait que mais c'est drôle en majeure partie. Ça se prend bien. C'est un petit film tranquille à regarder avec des enfants. Si vous êtes une gang de gars un soir, puis vous avez le goût de boire de la bière, manger des chips et regarder un film, allez peut-être vous chercher d'autres choses.
Ça dépend du quotidien de vos chums, là. C'est...
Ou du nombre de bières bues.
Oui, c'est peut-être. Comme deuxième film à la fin de la soirée, là. Quand tu incites tes amis à partir, ça peut peut-être être une bonne idée.
Ouais, c'est ça.
Donc, ben écoute, on verra ça. Ça vous tente.
Ou pas.
On va passer dans le top qualité maintenant. Daniel, c'est à toi. Tu veux nous parler d'un jeu sur 3DS. C'est ça à coche, hein?
Ah, je pensais que t'allais parler de moi.
Ben, c'est parce que je voudrais bien faire une critique de Daniel, mais t'es un être tellement, tu sais, il y a tellement de facettes, tellement de profondeur que j'en ai pas fait le tour encore.
On fera un podcast de 5 heures.
Ah, puis encore.
Ben non, oui, je vais vous parler d'un jeu qui est assez, comme tu dis, sacoche.
Sacoche.
Pour 3DS. ben en fait, c'est Bravely Default. Donc, un jeu qui a un nom assez banal, ou en tout cas, pas très attirant. T'sais. Tu t'en vas au magasin, puis tu vas acheter un jeu, puis t'as Bravely Default, ça a rien de très attirant.
Mais déjà, ça a l'air négatif, tu sais.
Ouais, ça a l'air par défaut, tu sais.
Ouais, c'est ça, c'est un jeu par défaut.
Ouais, c'est ça. Mais non, c'est un très très bon jeu à condition d'aimer le genre. Fait que si vous êtes pas le genre de joueur qui aimait tu sais, qui aimait pas les progressions lentes, qui aimait pas monter de niveau, tu sais, grinder là en bon français, qui aimait pas non plus des personnages un peu caricaturaux dignes du Japon, ben vous allez détester Bravely Default.
C'est une dinde intelligente.
Ah non, il y en a pas.
Personnages caricaturaux un peu.
Il y a aussi une chèvre. Ça prend des chèvres. C'est la grosse
chose. Non, il
n'y
a pas de chèvre. Hey, okay. Là, calmez-vous avec les animaux, messieurs. Mais qu'est-ce que vous avez?
Basco Simulator.
J'ai un chat ici. Hein. Là, il ne miaule pas encore, là, contrairement à l'épisode d'avant. Là. Mais si jamais il miaule, je sens que vous allez perdre tous vos moyens.
Non, mais on a peur qu'il est parti à la manifestation, pancarte à la main la semaine passée. Fait que là, on se dit, soyons de son bord, parce que sinon, on va en manger une maudite. Là. On le connaît. Là. On sait comment ça peut être agressif, un chat. Là.
Là, je vous dis en direct, il est en train de se laver, fait que, ouais.
On est safe.
Ok, c'est correct, il est occupé. Vite, continue.
Il reste la boule de poêle, il a le temps de finir sa critique.
Donc, non, c'est ça. Bravely Default, en fait, bon, je vais commencer par l'histoire. Comme on le sait, un bon jeu de rôle japonais, tu sais, ça prend une bonne histoire, ce qui n'est pas le cas dans Bravely Default.
Ah non?
Donc,
mais non, c'est, écoute, un bon RPG, ça prend une personne, ok, il y a une couple de clichés, ok, ça prend un être élu, ça prend une personne orpheline, ça prend un mal ultime, puis ça prend des magasins qui te vendent des objets, même si t'es là pour sauver l'univers.
Ben, il y a tout ça.
Ça prend ça. Sinon, donc, ce n'est pas un RPG.
Écoute, juste pour te dire, ok, le jeu met en scène le personnage de Tiz Harrier, donc oui, c'est son nom, qui finalement voit son village être détruit comme ça par un immense trou du jour au lendemain. Donc, il perd tout, son village, sa famille, n'importe quoi. En tout cas, tout ce qu'il y avait, son chien, sa chèvre ou son dindon.
Il est orphelin.
Mais ça arrive dans la vraie vie. Il y a aujourd'hui, justement, mercredi, il y a un musée de corvettes qui a eu un gros trou et ça a mangé des corvettes. Ça existe.
Le trou est apparu. Merci, bonsoir. Les corvettes sont apparues.
C'est ça. Fait que peut-être
les trous mangeux de corvettes.
C'est peut-être arrivé à la même affaire.
Peut-être.
Non, c'est pas ça qui est arrivé dans le jeu, en fait. En tout cas, je vous dirai pas vraiment ce qui est arrivé.
Fait que là, orphelin, check.
Ouais, orphelin. Ben, orphelin, écoute, c'est pas très clair, là, au piano, tu t'en fous s'il y avait vraiment des parents, là, mais en tout cas. Bref, Tiz est sur une quête pour venir en aide à la Vestale du Temps, donc un autre check au niveau des éléments là, qui sont importants.
Ok, un mal ultime, check.
Ouais. Parce que Tiz va devoir venir en aide à une Vestale du vent, donc la protectrice d'un cristal qui est très très puissante, mais qui est pourchassée par des forces obscures, en fait, les forces impériales célestes, là, c'est comme ça que ça s'appelle, qui veulent sa peau. Dans le fond, Tiz va venir en aide à cette Vestale-là, ce qui va l'amener, évidemment, à sauver le monde.
Donc, un élu, check, hein?
Oui, c'est un élu. Et c'est.
On dirait que j'y ai joué.
Ouais, non, mais écoute, au niveau de l'histoire, là, c'est tellement banal. Ça ressemble à n'importe quel autre jeu de rôle japonais auquel on a pu jouer. C'est vraiment pas l'histoire qui va vous accrocher dans Bravely Default. Tu sais, c'est. Tous les clichés du jeu de rôle japonais, là, ils sont là. Puis là, je vais commencer vraiment par les personnages. Les personnages, là, déjà, dans les jeux de rôle japonais, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont souvent des noms un peu bizarres. Tu sais, comme... déjà,
t'es fin en disant des fois.
Ouais, là.
Bon, OK, souvent, d'abord. Ou tout le temps. Mais tu sais, déjà, le protagoniste, en fait, il s'appelle Tiz Harrier. c'est bizarre. Là, la Vestale, elle s'appelle Agnès Oblige. Oui, c'est vraiment Oblige. Même en anglais, c'est Oblige.
OK.
Tu rencontres, puis tu vas rencontrer deux autres personnages aussi assez tôt dans l'aventure qui vont devenir finalement tes alliés. Donc, tu vas devenir un groupe de quatre personnages. Puis, il y en a un là-dedans qui est un homme, qui est un coureur de jupons et qui s'en cache pas. Là, vraiment, n'importe quelle scène est bon pour un prétexte pour une remarque au niveau des femmes. Et il s'appelle Ringabel.
OK, donc le personnage qui fait office de tortue géniale dans Dragon Ball, check.
Oui, check, mais beaucoup plus jeune cette fois-là, avec une belle chevelure blonde.
Ah, okay.
Donc, tu sais, mais c'est ça, tu sais, encore là, on a le droit à un cliché japonais. Puis, je sais pas pourquoi, là, mais il y a au niveau des même des aspects physiques, là, ça a souvent pas rapport. Jean Tiz, là, tu le sais, c'est un jeune, écoute, il doit même pas être avoir 18 ans, là, mais il a les cheveux gris.
Ah.
Donc ça, c'est un autre élément caricatural des jeux de rôle japonais.
Fouille-moi pourquoi, mais OK.
Oui, les cheveux gris. Donc, fait que c'est ça. Dans le fond, dans Bravely Default, c'est un paquet de clichés de jeux de rôle japonais. Puis honnêtement, je pense pas qu'on a cherché à révolutionner le genre. Je pense qu'au contraire, on a voulu proposer un jeu de rôle typiquement japonais, un jeu de rôle à tour de rôle. Ah ouais, c'est ça. Ah, ça
c'est comme des synonymes, ça? Je regarde ça, là. Ça ressemblait pas mal à ça.
C'est du tour par tour.
C'est du tour par tour.
Ah ouais, ok.
C'est ça. C'est pas des combats en temps réel.
Plus 5, moins 2, plus 10, moins 7.
Genre, tu sais.
Moins 20, t'es mort, je suis mort. On est mort.
Plein de statistiques là, cachées que dans le fond, tu vois pas. Fait que. Je pense qu'on a vraiment voulu rendre un hommage aux vieux jeux de rôle japonais, incluant les premiers Final Fantasy. D'ailleurs, quand vous allez y jouer, si vous êtes un vieux de la vieille comme moi, ou pire encore, Luc, vous allez vous rappeler...
Excusez, pardon.
C'est tellement gratuit. Ah, j'aime ça. Merci, mais... j'adore ça. Continue, Daniel, continue.
Pas de problème. Dans le fond, si vous avez joué au premier Final Fantasy, ça va beaucoup vous rappeler ces jeux-là, parce que vraiment, on a copié, ben pas on a copié, mais on a repris ce concept-là de jeu de rôle à tour de rôle.
jeu de rôle à tour.
Ouais, je vais changer mon
nom. C'est moi qu'on traite de sénile.
Hey, Luc, soit dit en passant, Noé fait dire que t'es pas fiable, t'étais censé aller l'aider pour construire l'arche.
Ouais, je sais, puis il me doit 5$.
Ah, ok, c'est bien. Mais bon, bref, pour en revenir au jeu, donc c'est ça, tu sais, c'est vraiment un hommage. Écoute, on a même l'aéronef qui est typique des jeux de rôle japonais. Donc l'aéronef est là. Donc vous allez.
J'ai-tu compris que c'est un jeu de rôle? Je suis comme sûr.
Oui, oui, c'est un jeu de rôle.
Okay. Au tour par tour, là.
Non, à tour de rôle.
Ah, ok, excusez.
C'est un jeu de rôle dans le sens que c'est comique ou drôle dans le sens qu'on joue le rôle d'un personnage?
Non, c'est pas comique. Sérieusement, là, tu sais. C'est une faiblesse, moi, je trouve, des jeux qui viennent de l'Orient. On a de la misère à créer des scénarios, tu sais, qui vont vraiment nous captiver ou vraiment nous jeter par terre. Là, on essaie de pitcher une couple de jokes ici et là, surtout avec Ringabel, là, qui est vraiment un obsédé, là, on va le dire comme ça. Mais ça marche pas, là. C'est pas drôle.
Il est censé être le comic relief, mais c'est à plat, tu sais.
Non, ouais, c'est ça, ça tombe pas mal à plat. Il y a quelques scènes là, qui sont un petit peu plus humoristiques, mais comme je dis, l'histoire, c'est pas ça qui va vous accrocher, c'est pas ce qui va faire en sorte que vous allez embarquer dans le jeu. Ce qui va faire en sorte que vous allez embarquer dans le jeu, parce que, bon, là, ça a l'air d'un jeu très banal, mais pourtant, Bravely Default, ça l'est pas, ça va être surtout son système de combat. Son système de combat, comme je... Au cas où vous ne l'avez pas compris, c'est à tour de rôle. Donc, au tour par tour. Mais...
Chacun son tour. Un après l'autre.
Oui, un après l'autre. Mais ce qui est différent dans Bravely Default, c'est le système de Brave et Default. Donc, dans le fond, vous allez avoir deux options comme ça qui vont vous permettre soit de... En fait, d'enchaîner vos attaques. Donc, de prendre une attaque puis d'en additionner une autre, non, pour finalement attaquer... dans un même tour, attaquer plusieurs fois de suite, ou encore vous allez pouvoir utiliser l'option default qui va vous mettre dans une position défensive et qui va emmagasiner un tour de combat. Donc, ça amène un élément stratégique intéressant parce que ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre un personnage dans une position défensive puis garder un ou plusieurs tours de combat en réserve puis finalement attaquer plusieurs fois de suite à un moment donné sans avoir de pénalité, ou soit carrément utiliser l'option Brave puis attaquer plusieurs fois de suite quitte à ce que votre personnage puisse pas attaquer pendant des tours subséquents. Donc ça fait en sorte que d'un côté, soit vous pouvez y aller de façon plus défensive puis plus safe, ou si jamais vous êtes sûr de pouvoir vaincre un ennemi en un tour, ben vous pouvez carrément utiliser plusieurs Braves de suite puis attaquer à fond. Puis ça va faire en sorte, ça va y couper l'herbe sur pied, puis vous, vous serez pas attaqué, donc vous mangerez pas de dommages, puis ça peut permettre de terminer les combats assez rapidement puis facilement. Donc ça, ça amène un... Moi, je trouve que ça amène un bel élément de stratégie qu'on a pas souvent vu ou pas pantoute vu dans d'autres jeux de rôle. C'est une belle nouveauté. Fait que tu sais, dans le fond, c'est rempli de clichés, mais ça met Bravely Default amène certaines nouveautés qui font en sorte que le jeu, autant il est classique, autant il est rafraîchissant. Puis ça, honnêtement, dans un jeu, moi, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement eu le sentiment de jouer à un jeu auquel j'avais l'impression d'avoir joué des dizaines de fois, mais qui, en même temps, me paraissait vraiment nouveau. Donc ça, c'est intéressant.
Visuellement, j'ai vu une couple d'images. Ça a l'air très, très joli aussi, hein?
Écoute, moi, je te dirais, j'ai été mitigé à cette niveau.
Ah ouais, OK, bon.
Les cinématiques sont super belles, OK? Okay. D'ailleurs, clin d'œil au show, il y a une carte de réalité augmentée qui vient avec le jeu.
Ça sent bien.
Ça commence à être temps que quelqu'un d'autre en reparle.
Ouais.
Ouais, non, c'est ça. Donc, dans le fond, vous allez pouvoir générer une cinématique avec cette carte-là. Ils sont super belles, là, les cinématiques. Ça, j'ai rien à dire. Par contre, au niveau du jeu en tant que tel, je sais qu'il y en a qui trippent sur ce genre-là, qui est un peu aussi un hommage aux vieux jeux de rôle. Mais en même temps, on revient à l'époque où ce que les mains des personnages étaient des cubes. Tu sais, fait que moi, j'ai pas nécessairement trippé là, sur les graphiques du jeu. Ils sont pas laids, mais ils sont pas nécessairement attirants. Là. En tout cas, moi, je les ai trouvés un peu quelconques, là, okay. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont trippé sur le style visuel.
Si je regarde là, certains screenshots un peu là, sur le web, c'est peut-être ça, là, c'est peut-être les books, c'est les cinématiques, les images ont été prises, mais je trouvais ça vraiment joli. J'essaie de voir là, peut-être un écran où est-ce que une image où est-ce qu'on a les deux écrans. C'est vrai que ça a l'air peut-être un petit peu plus grossier, là, vu pas on manque d'espace ou peut-être de capacité de la console.
Mais c'est pas laid, là, tu sais, puis le jeu est très fluide, mais c'est pas un jeu qui est nécessairement très très léché. En même temps, puis tu sais, même au niveau de la map monde, là, parce que la carte du jeu est quand même assez massive, vous allez voir, c'est un terrain 2D là, sur lequel vous allez vous promener. Tu sais, c'est assez quelconque. Il faut aimer aussi le style visuel, tu sais, peint à la main, là, qu'on appelle. Donc, dans le fond, les villes, ça a l'air des grosses aquarelles. Donc, ça donne un style assez particulier, mais il faut aimer ça. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est très grossier, puis il y en a qui vont dire que c'est de l'or pur et dur. Donc, je vous dirais, ça dépend de vos goûts. Moi, j'ai pas trippé, j'ai pas trouvé ça décevant non plus. J'ai trouvé ça moyen, je dirais, au niveau visuel. Il y a d'autres éléments aussi que j'ai trouvé super intéressants dans le jeu, dont, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est qu'on donne le contrôle aux joueurs du jeu. Dans le sens que, à tout moment, vous allez pouvoir paramétrer la difficulté, mais vous allez pouvoir déterminer le nombre d'ennemis, en fait la fréquence d'apparition des ennemis. Donc ce que ça fait, c'est que mettons que vous avez besoin de d'acquérir des niveaux rapidement, ben vous allez pouvoir maximiser la fréquence d'apparition des ennemis pour finalement accumuler de l'expérience très très rapidement.
Okay. Alors tu peux faire du farming, tu peux faire du training en fou. Après ça, tu peux avoir la paix plus, là.
Ouais, tu peux, effectivement, c'est ça. Puis en plus de ça, dans les combats, dans un tour, là, n'importe quand, tu vas pouvoir soit accélérer ou décélérer la vitesse du combat. Donc, ça peut faire en sorte qu'un combat peut durer juste quelques secondes, là, parce que les attaques vont être très, très rapides. Okay. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis ça, là, c'est en temps réel, dans le sens que dans un combat, ça peut aller super vite. Si tu as envie que la vitesse soit réduite dans un autre combat, tu vas pouvoir le faire aussi. Donc, ceux qui veulent observer les attaques, à chaque combat, vont pouvoir le faire. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous allez pouvoir le faire aussi. Donc, tu sais, de donner le contrôle des paramètres aux joueurs, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça amène un bel élément de personnalisation de l'aventure.
Game Freak, ceux qui font les Pokémon, prenez ça en note. On veut de ça.
Oui, 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 absolument.
S'il vous plaît, parce que ça vient à maner, là. Tu sais, tu te promènes, là, tu t'en vas juste, comme, mettons, soigner, là, tes petites bêtes, là. Puis là, tu t'arrêtes pas de t'enfarger dans les Pokémon, puis tu sais, souvent, t'es dans des places que t'as déjà passées, fait qu'elles sont vraiment plus faibles, là. Elles sont pas de taille, fait que, tu sais, les battes, ça sert à rien, puis là, tu perds du temps, hein, tu sais.
Ouais, à un moment donné, je faisais juste quitter.
Ouais.
Me sauver, tu sais. C'est pas parce que j'étais pissou, c'est parce que, regarde, à un moment donné, ça fait 10 que je plante, là.
Non, ouais. C'est ça, tu sais. Tandis que dans Bravely Default, ben, dans le fond, si t'es dans une région où ce que tu vois que ça sert plus à rien d'acquérir de l'expérience, mais dans le fond, on réduit la fréquence des ennemis à quasiment zéro, puis tu vas voir qu'il y en aura pas tant que ça là, qui vont t'apparaître.
Ah, ben, ça, c'est un beau plus. C'est une belle, belle innovation.
Oui, oui, c'est vraiment le fun. En plus de ça, au niveau de la personnalisation encore, il y a à peu près 22 classes, je pense, de personnages que tu vas pouvoir acquérir en battant des boss. Incluant dans les missions secondaires, là, il y en a beaucoup de classes que tu vas pouvoir acquérir dans les missions secondaires. Et dans le fond, non seulement tu vas pouvoir améliorer ta classe principale de personnage, donc exemple ton moine ou ton chevalier, ton mage blanc, peu importe, mais tu vas pouvoir aussi mixer deux classes de personnages. Donc, dans le fond, ton personnage va avoir une classe principale plus une classe d'assistance. Ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir bénéficier des techniques puis des sorts de deux classes à la fois. Fait que ça peut faire en sorte que, par exemple, un moine, donc qui est très fort des mains, va pouvoir lancer des sorts de magie blanche. Donc, tu peux vraiment concevoir des personnages à ton image, à ton style de jeu. Puis ça, c'est vraiment le fun. Ça amène un autre bel élément de stratégie en plus du système de combat de Brave et Default. Je vais parler de l'autre peut-être nouveauté qui est un petit irritant aussi en même temps, c'est les fonctionnalités sociales. Je disais au début de la chronique que le village de Tiz a été détruit. Mais pourtant, dans le jeu, tu vas pouvoir le reconstruire. Et comment tu vas pouvoir le reconstruire? Ben, c'est en faisant bénéficier le village de d'autres joueurs. Donc, dans le fond, quand tu vas croiser d'autres joueurs avec Street Pass, ben, tu vas ajouter des habitants au village et ils vont pouvoir reconstruire des boutiques, vont pouvoir dégager des allées puis des trucs comme ça. Moi, je vous encourage vraiment à croiser le plus grand nombre de joueurs. C'est sûr que le jeu va vous en attribuer par défaut. Sauf que plus vous en avez, plus le temps de construction est moindre. Et vous n'avez pas vraiment le choix non plus de le faire parce que les meilleures armes, les meilleurs sorts et les meilleures armures aussi se trouvent dans le village. Donc, too bad si vous n'avez pas d'amis ou que vous ne croisez pas de joueurs, ben ça va juste, dans le fond, le temps de reconstruction du village, puis acquérir les meilleures armes du jeu, ça va juste être plus long. Donc, ça, c'est un peu dommage, mais ça ressemble finalement à un jeu de plateforme sociale, là, genre Facebook. Là. Okay. C'est à ça que ça ressemble. Puis, tu vas pouvoir aussi envoyer ce qu'on appelle des colosses, donc des monstres hyper puissants à d'autres joueurs. Et tu vas même pouvoir envoyer ton personnage, en fait, de ton aventure à un joueur pour qu'il utilise une technique dans leur combat via une option qui s'appelle assistance. Donc, ce que ça va faire, c'est que ton personnage va pouvoir attaquer et va pour venir en aide à un groupe d'aventuriers d'un autre joueur. Et toi aussi, tu vas pouvoir faire appel à ces personnages. En fait, à une technique d'un autre joueur. Donc, tu sais, ça amène une dimension sociale qui est, qui est limitée, mais qui est quand même intéressante. Les techniques d'assistance des autres joueurs, là, d'habitude, sont assez puissantes. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, si jamais vous ne croisez pas d'autres joueurs ou que vous n'avez pas d'amis, ben il y a toujours le robot fourni par le jeu, là, le robot allié qui peut vous venir en aide.
Sinon,
vous faire sentir moins ça.
Sinon, pour trouver des amis, il y a une pharmacie qui y en a. Là.
Ouais, si vous pouvez toujours aller chez JC. Non, JB, mais JC, il y a des amis. Là. Mais je disais que ça apporte un irritant, c'est que, dans le fond, on a inclus des microtransactions dans le jeu.
Ah non!
Donc, c'est un jeu qui se vend 40$, et oui, il y a des microtransactions. Il y a des microtransactions à travers les ce qu'on appelle les special points, des points qui vont vous attribuer certains avantages, notamment en combat, par exemple, en vous ajoutant un tour de combat.
Donc, c'est un pay to win.
Écoute, on t'incite pas. On te le dit une fois que tu peux en acheter avec de la vraie monnaie. Puis ces special points-là aussi peuvent s'accumuler jusqu'à 3 si tu laisses la console fermée pendant, je pense, à chaque tranche de 8 heures. Donc, sauf que, tu sais, moi, j'aime pas ça. Quand on vend un jeu complet, à prix complet, là, donc à 40$. Puis qu'en plus de ça, on t'invite à acheter des bonnies ou des avantages via des microtransactions. T'en as pas besoin des special points. Là, t'sais, j'ai fait le jeu puis je les ai jamais utilisés. Mais le fait que ça soit présent, moi je trouve que c'est finalement donner des avantages à des joueurs qui ont les poches profondes plutôt que de seulement récompenser le joueur en fonction de ses accomplissements ou de ses habiletés. Moi ça me dérange, sérieusement.
Mm-hmm. Ouais, je sais pas moi non plus. Il me semble Nintendo avait resté loin de ça.
Ouais, mais c'est pas eux autres qui ont conçu le jeu.
Non, mais je veux dire, je pensais qu'ils auraient peut-être dit, regarde,
tu sais. Peut-être une politique interne ou une affaire de même.
Console plus familiale, fait que, tu sais, tes microtransactions, tu sais, ouais, garde-les pour toi, genre.
Puis, tu sais, je dis, tantôt, je disais pay to win, tu sais, vu que c'est un jeu qui est en solo, t'as pas vraiment d'affrontement avec l'extérieur. Ça change rien, tu sais, que t'ailles à payer ou non, tu sais. Il me semble que tout ce que tu peux avoir en payant va juste te permettre d'être meilleur contre toi-même, tu sais, contre le jeu. Ouais. Donne-moi-les, tu sais.
C'est pour ça que, tu sais, c'est pas utile, puis on vous met pas de pression pour en acheter. On vous le dit, comme je dis, on vous le dit une fois, puis that's it. Mais moi, juste la présence de ces microtransactions-là, ça m'irrite, irrite et non pas hérite.
Ouais, c'est la c'est le côté mentalité. Là. C'est pas parce qu'on te l'impose, c'est vraiment la mentalité de mettre ça dans le jeu, de ben, t'ouvres la possibilité à.
Oui, c'est ça. Exactement. Puis je vois pas l'utilité, je vois pas pourquoi on a mis ça. On aurait pu supprimer ça. C'est une façon un peu d'essayer de se faire de l'argent on the side. C'est inutile, puis je trouve que c'est aller piger dans les poches des joueurs. Puis c'est de récompenser finalement ceux qui ont plus de moyens par rapport à ceux qui veulent juste jouer puis s'améliorer en tant que joueur. Donc, comme je dis, c'est pas incitatif, c'est pas harcelant, mais c'est dommage comme option. Moi, je l'aurais pas mis.
Ouais. Côté nombre d'heures, on parle d'un JRPG, c'est des jeux normalement qui sont assez longs. C'est un jeu mobile, là, mais c'est combien d'heures, combien de temps pour passer à travers tout ce que tu as à faire dedans?
Tout.
non, mais tu sais, mettons la trame principale, là. Donne-moi une évaluation. Là.
La trame principale, écoutez, vous en sortirez probablement pas en bas de 40-50 heures.
OK. Quand et tu sais, vu que c'est une plateforme mobile, est-ce que tu sais, je peux jouer à ce jeu-là dans le métro ou dans l'autobus, puis je suis capable de faire des petites games courtes ou.
Oui, absolument. Mais tu sais, juste en grindant, je veux dire, rien n'empêche de jouer pendant des courtes périodes juste pour avoir de l'expérience de plus, pour améliorer ses personnages. Il y a quand même beaucoup de points de sauvegarde. C'est pas un jeu non plus qui requiert toutes les fonctionnalités de la 3DS là, ou de la 2DS, là, mais dans le sens que, tu sais, il n'y a pas la fonction du gyroscope et des trucs comme ça. Donc, tu sais, c'est un jeu que tu peux apprécier comme il est pour une plateforme mobile. Donc, dans le fond, tu peux jouer n'importe où, puis tu n'auras pas de misère à l'apprécier pour ce qui est. Donc, c'est quand même un jeu massif, là, je vous le dis, c'est un JRPG. Donc, en tout cas, une couple de dizaines d'heures, certains d'investissement de temps. Puis ça peut être un très bon voleur de vie sociale.
Oui, puis pour les amateurs de ce style-là, le prix donc est bon, la durée de vie est bonne. Ouais. Le résultat, là, je disais d'entrée de jeu que c'est un jeu qui était sur la coche. Donne-nous ta note, là. C'est quoi ton bilan final?
8.5 sur 10. J'ai pas mis plus haut parce qu'il y a quand même certains irritants. Histoire assez banale, beaucoup de clichés. Ça, en même temps, c'est pas nécessairement un défaut, là. Mais moi, les microtransactions, c'est vraiment ce qui m'a tapé ses nerfs. Juste leur présence, ça m'a tapé. Puis bon, au niveau visuel, moi, personnellement, j'ai pas trippé. Moi, les mains en cube, on n'est pas dans Minecraft, là. Donc, mais c'est des petits irritants, mais qui enlèvent rien au fait que c'est un excellent jeu. Si vous avez aimé les premiers Final Fantasy, c'est clair que vous allez adorer ce jeu-là. Donc, à recommander pour les amateurs de genre.
Wow. C'est plaisant. C'est le fun de que... J'aime ça quand, tu sais, oui, on demande le plein prix, mais on en a pour le plein prix aussi, tu sais.
Ah, oh, absolument.
Avec un 40$, c'est ça, tu te rapproches des jeux console de salon, tu sais. Fait que donne-en.
Ben, t'es pas loin quand même de l'expérience d'une console de salon.
Mais tant mieux, c'est le joueur qui est gagnant, puis c'est ce qu'on souhaite.
Yes!
Moi, je vous parle de Robocop, j'étais allé en avant-première hier, IMAX, tu sais, gros écran, gros son, il n'y avait pas de 3D. Yes! Pas de 3D. Yahoo! Même si c'est du IMAX, le 3D, j'aime pas ça. Bon, fait que mettez-moi-en pas, je suis bien content. Réalisateur Paul Verhoeven, c'est lui qui... Non, attends un peu. Ça, c'est... J'ai l'affiche du premier, puis j'ai l'affiche du reboot d'en face. Paul Verhoeven... réalisateur du premier Robocop, sorti en 1987, film de science-fiction, qui, selon moi, est très, très souvent sous-évalué. Ce film-là est un classique, est une critique sociale sévère et visionnaire à tellement de points. Le rythme n'est pas celui de... aujourd'hui, là, des films de maintenant, l'action non-stop, faut tout le temps que ça aille de l'avant, mais c'est un film dont le propos est tout à fait à jour. Ça se passait dans l'histoire du film, c'était un peu futuriste, c'était dans les années 2000, Détroit est en crise, Détroit est en crise aujourd'hui, tu sais, la réalité a rattrapé la fiction, si ce n'est qu'il n'y a pas de robots qui font les polices dans les villes de Détroit. Donc, le film de 1987, pour moi, avait une très très belle place dans mon palmarès des meilleurs films que j'ai écoutés dans ma vie pour plusieurs raisons. Sauf que j'ai essayé d'aller voir le nouveau film de Robocop qui est c'est pas un remake, ok, on va se le dire. Ce n'est pas on refait le même film avec les effets d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un reboot. On recommence la licence. Donc, l'histoire du premier, je le savais qu'on était pour pas me présenter la même histoire et j'accepte qu'on le fasse, il n'y a pas de problème. Le réalisateur José Padilla, écoute, je vais ouvrir sa fiche samedi, que dalle, et c'est son deuxième film à vie, son dernier, datait de 2011, Elite Squad, The Enemy Within. Ça vous dit-tu de quoi les boys?
Non.
Moi non plus.
J'ai vu la pochette au cinéma, pas au cinéma, dans un club vidéo, mais c'était à peu près ça.
Ça me dit que dalle. sur ça en décembre 2011, avec des acteurs mexicains, et c'est pas mal ça. Donc, on a offert le reboot de Robocop, un classique pour moi, un gars avec zéro... Ben, je dirais pas zéro vécu, parce que tu sais, il a peut-être travaillé sur bien des projets en pub ou peu importe. Ben, on lui a offert sur un plateau d'argent cette production-là de MGM et Sony Pictures qui distribue au Québec. L'histoire est assez simple. On reprend quand même quelques thématiques du premier film. Je vais vous les élaborer quand on y touchera. Alex Murphy est un policier qui se bat contre le crime organisé, contre le crime à New York, une ville qui est extrêmement dure. Et il y a, selon lui, il y a des policiers qui sont des taupes et qui ont des connexions avec le crime organisé. En apprenant ça, les policiers décident avec le caïd Antoine Vallon de tuer Alex Murphy parce qu'il n'arrêtera pas. C'est pas le genre de flic que tu peux acheter.
Ça, la thématique est assez semblable au premier film, okay, de 1987. Ensuite, dans cet univers-là, on est quelque part dans les années 2000, c'est pas vraiment mentionné assez haut. Et un peu partout sur la planète, il y a une entreprise qui s'appelle Omnicorp, qui produit des robots qui sont la police. On a comme retiré la police et c'est les robots qui ont pris la place et l'efficacité est à son maximum, il n'y a plus de pertes, le crime baisse, ça fonctionne super bien. On vend ça, là, ces robots-là, un peu partout sur la planète. C'est une entreprise américaine, mais aux États-Unis, le Sénat ne veut pas. On veut garder l'humain comme policier parce qu'on dit ça prend de l'humanité, tu peux pas décider de la vie. On veut pas qu'un robot décide de la vie de nos citoyens. On veut qu'on ait du discernement. Si on arrive en avant d'un gamin qui a une arme, qui a 12 ans, le robot, s'il sent une menace, il shoot, t'sais. Tandis que l'humain va essayer de le contrer autrement pour préserver la vie de l'être humain. Il n'y a pas de. Il y a un côté discrimination, tu sais, de l'être humain. Il y a un côté jugement. Et le robot, lui, ben, il n'y en a pas de ça. Il passe tout de suite à l'action. Dans ce contexte-là, l'entreprise se dit, OK, bon, on veut pas de quelque chose qui est 100% un robot. Offrons aux États-Unis un exemple dans la pire ville, Détroit, d'un hybride entre les deux. Donc, un humain dans un robot qui deviendra Robocop. On essaie de recruter des anciens policiers. Il n'y a pas de candidat parfait, si ce n'est Alex Murphy, qui est victime d'un attentat à la bombe sur sa voiture de la part de Antoine Vallone et sa gang de mafieux. Donc, il est dans un très, très grave état. On le prend, on le transforme en Robocop. Jusqu'à date, c'est assez semblable avec la thématique du film de 1987. C'est pas dans le même ordre, c'est pas la même façon. C'était extrêmement cruel ce qui se passait dans l'édition de 1987. La scène où est-ce que Alex Murphy meurt, c'est une scène qui est très, très dure. Je ne pense pas qu'au cinéma aujourd'hui, dans un film grand public, on aurait pu refaire une même scène. Ça aurait pas passé.
Donc, c'est pas mal moins violent.
Pas mal moins. Attention à la bombe, on voit ça de loin, puis tu vois qu'il est cramé, mais... On voit pas les membres éparpillés, on voit ça de loin, puis tu sais, c'est aseptisé.
Ben, je me rappelle la scène du film original, quand il meurt, il y a même un des méchants qui va y faire exploser à la main avec un fusil. Ouais. C'est dégueulasse.
Ouais, ouais, c'est vraiment assez hard.
C'était
là.
Vraiment graphique là, pour le temps. Là. C'était, ben, quoi que la mode était au film violent dans ce temps-là.
Mais ben, faut dire, OK, je vais juste remettre un peu ça en contexte. Paul Verhoeven est un juif qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Il l'a vécu de l'intérieur. Il était jeune à ce moment-là, peut-être 7-8 ans, quand son pays, c'est un Polonais, a été envahi par Hitler et les nazis. Et à un moment donné, dans sa jeunesse, il était avec un de ses amis, 7-8 ans, et il y a des gens de l'armée nazie qui épongent. Ils disent « Hey, à côté, t'sais, mettez-vous en avant du mur, face au mur, puis c'est là que ça se passe, vous allez crever les chiens, tu sais. » Et les deux membres de l'armée les ont menacés jusqu'à ce qu'ils se pissent dessus, tu sais, qu'ils fassent dans le culotte. Et les deux gars de l'armée sont partis à rire, puis ils ont laissé là dans leur, tu sais, en ayant la chienne, ils ont laissé là, puis merci, bonsoir. Fait que, tu sais, le gars a été marqué à vie, puis Robocop de 1987 était une immense critique sociale. Et l'humour noir dans ce film-là, à plusieurs occasions, on va faire des one-liners, des phrases punch qui sont extrêmement sarcastiques, sont très morbides aussi. La violence graphique, quand tu connais le parcours de Paul Verhoeven, tu comprends que le gars, il avait quelque chose à dire, puis c'est pas lui qui va se limiter, tu sais, qui va se mettre des bâtons dans les roues, qui va dire « Ah, ça, c'est trop graphique, on fera pas ça, tu sais. » Le gars, il avait un message à passer et il l'a passé à la face des États-Unis. C'était d'ailleurs son premier projet aux États-Unis qu'il avait fait. Donc, on lui avait donné carte blanche. Il avait une bonne réputation en Europe et il a pu faire le projet de Robocop. Là, dans la version 2014, on s'entend, c'est pas du tout le même constat. On veut un film grand public, on veut un film d'action, de science-fiction. On veut quelque chose qui va être accessible pour tout le monde et c'est ce qu'on offre. Donc, violence graphique, on oublie ça. Il y a des scènes de combat, oui, mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'éclatage de main, il n'y a pas d'affaires de même. C'est pas mal plus aseptisé.
T'as pas de gars genre fondu par l'acide.
Non, t'as pas ça. Non, t'as pas ça. Non, t'as pas ça. Après ça, donc, on décide qu'on organise Robocop, on te le génère. Ah ouais, merci, bonsoir. On finit par te le réveiller. On dit 4 mois plus tard. Comme si pendant 4 mois, Alex Murphy, inconscient, dans le coma, il sait absolument pas qu'est-ce qui se passe. On le réveille 4 mois plus tard et il est transformé en robot. La scène du réveil est assez particulière parce que, contrairement au premier Robocop, où c'était rendu une machine qui n'avait aucune humanité en lui, et on suivait son parcours jusqu'à ce que Robocop redevienne Alex Murphy. Dernière scène du film, le grand boss de l'entreprise qui a généré Robocop, qui l'a créé, dans le film de 1987, le grand patron, il demande « Quel est ton nom, garçon? » Et il ne répond pas Robocop, il répond Alex Murphy. T'sais, c'était une quête d'humanité de la part de Robocop. Dans celui-ci de 2014, c'est complètement l'inverse. Alex Murphy se réveille, il est Alex Murphy. Il y a un chien, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis? Il découvre, on lui montre qu'est-ce qui reste de lui dans cette carapace robotique. D'ailleurs, les effets visuels, c'est malade, c'est vraiment très très bon, on a fait du très beau travail. Ça ressemble un peu, tu sais, les Transformers, là, quand ils passent de char vers les robots, là, ben faites l'inverse. C'est le robot qui se défait pour redevenir l'humain. C'est une très, très belle scène dans un beau labo blanc, tu sais, visuel très aseptisé. C'est visuellement, là, c'est sur la coche, cette scène-là, entre autres. Et il panique, il capote. Qu'est-ce qui se passe? Le scientifique qui est comme un bon gars, il dit « Ok, c'est bon, relax, calme-toi. » Et Robocop part à courir, se sauve jusqu'à ce qu'il sorte des murs de l'usine. Il est plus aux États-Unis, il est en Chine, dans des chandries. Puis là, ben, ils font comme « Bon, ben déconnectez-les, là, on va le ramener parce que là, ça n'a quand même pas de bon sens. » Donc, on lui, tu sais, il va apprendre à être le robot qu'il est. Il va apprendre, qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et tranquillement, pas vite, on va avancer dans l'histoire du film. On va le ramener aux États-Unis. L'État va dire « Ok, c'est bon, on accepte vu qu'il y a un humain dedans. On va donc le ramener à Détroit. On va faire rencontrer sa femme. » Puis là, tu sais, il y a tout ça. D'ailleurs, dans le premier, sa femme est complètement absente, est disparue. Elle n'est plus là du tout dans le monde de Robocop, dans sa nouvelle vie. Elle n'est pas là pantoute. Là, elle est là tout le long. À un moment donné, on va dire à Alex Murphy, on va te donner accès à tous les fichiers de la police, à toutes les enquêtes, tous les dossiers. Et pendant ce loading-là, c'est genre des milliers, c'est des mecs de fichiers, là, il y en a là, par centaines de milliers. Et il fait un genre de surchauffe. On est à quelques minutes de le présenter à la presse. Et il fait comme une surchauffe, fait qu'on est obligé de l'anesthésier. Et c'est à ce moment-là que le Alex Murphy, qui est encore très humain dans le robot, on l'anesthésie tellement, on met vraiment là, son cerveau pratiquement off. On parle de quelque chose comme 2% d'humanité qui reste à l'intérieur de celui-ci. Là. On le met complètement amorphe, contrôlé par la machine. Et après ça, on le présente aux médias. Et là, ben, on va faire le parcours qu'on a fait dans le film de 1987. On va refaire de la machine vers l'humain. C'est assez complexe, l'histoire. Ça dure 2 heures. Et tout le long du film, on n'a que de l'avancement dans la situation de Robocop, d'Alex Murphy. On n'a que ça. On a, dans le fond, oui, des scènes d'action, mais on n'a pas de némésis. On a, oui, Antoine Vallone, le méchant qui l'a tué, mais ça dure tellement pas longtemps. Oh, OK, il se rappelle de ça. Ah ouais, badadang, on règle le dossier, merci, bonsoir. C'est fait. Tu sais, c'est à peu près 10 minutes du film. Il y a pas de vilain, il y a pas de némésis. Il y a... on se demande vraiment, là, tout le long du film, je me suis demandé, j'aime-tu ce que je vois ou j'aime pas ça? J'étais comme pas sûr. C'est beau, il y a des belles scènes d'action, mais dès que tu grattes un peu, ça s'écaille. Il manque, on dirait qu'il manque un âme à ce film-là. J'ai pas accroché, j'étais allé avec un de mes chums, on discutait après, puis même affaire, c'est comme si j'avais rien senti. Je l'ai pas aimé, je l'ai pas détesté,
J'ai deux heures dans ma vie qui ont été qui se sont évaporées comme s'il ne s'était rien passé. C'est vraiment particulier. Il manque de quoi? Il manque un petit quelque chose sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt. Il y a du monde qui ont apprécié énormément. J'ai regardé les critiques. Il y a des très, très bonnes critiques. Il y en a qui sont très, très mauvaises. Moi, je vous dirais, là, si je vais y aller avec un 5 pile, tu sais, entre les deux, tu sais. Je sais pas. Il est-tu bon? Il est-tu pas bon? Je pourrais pas vous le dire. Donc, allez le voir. Faites-vous votre propre idée. Dans les trucs positifs, je vais y aller quand même assez rapidement parce que le temps file. Samuel L. Jackson fait un genre de reporter télé. C'est genre un infopub. C'est une chaîne payée par Ornicorp. Le but, c'est de promouvoir les robots aux États-Unis. C'est pro-américain. C'est hyper patriotique. Sam Jackson fait ça comme un pro. C'est vraiment très, très bon. Du tac, le personnage est ça à coche. Ça m'a fait penser à son rôle dans le film Unbreakable avec Bruce Willis. Tu sais, très manipulateur, des grandes envolées lyriques, en parfait contrôle, sauf la partie que le gars est un... c'est de la porcelaine, puis ses os pètent à rien dans Unbreakable. Là. Dans ce film-là, c'est à peu près le même personnage. Look aussi, ça se ressemble beaucoup. Très, très bonne performance de sa part. Il y a un moment donné, il lance une pointe envers les chaînes de télé, puis il dit « Ah, oh, ces chaînes de télé là, qui essaient d'influencer le Sénat, qui ne sont pas neutres. » Puis tout le monde, il dit « Notre entreprise, on est corp, c'est la bonne affaire, les robots sont... » Tu sais, là, tu fais comme « Ok, comment toi, tu peux te permettre de dire que les autres sont pas neutres, là? » Mais c'est tellement savoureux, c'est sarcastique à point. J'ai adoré ça. Sam Jackson fait une job écœurante là-dedans. Robocop, j'ai adoré les scènes d'entraînement où est-ce qu'il apprend comment utiliser ses capacités. On doit, tu sais, le reprogrammer parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Il est moins bon que les machines. Puis là, tu sais, on va régler le problème. D'ailleurs, on règle le problème d'une façon que, au moins, normalement, que tu te poses la question, tu fais comme, ah, ça marche tellement pas, là. En tout cas, vous verrez dans le film. C'est parce que je veux pas brûler les punches, mais dès que tu grattes ce film-là, ça s'écaille, là, ça. On vient d'en perdre un morceau. C'est tout le temps de même. Faut pas creuser, ok? Allez voir le film, puis acceptez ce qu'on vous dit. Ne réfléchissez pas, ok? Robocop pourrait être un film avec des dindons que le niveau intellectuel qu'on vous demanderait, ça pourrait pas le même, ok?
Robot d'Inde!
Sinon, l'entraînement, c'est très, très cool. Côté mauvais, j'ai trouvé le film, comme je vous disais, pas bon, pas mauvais. C'est comme Inspire, il n'y a rien qui se passe réellement. C'est un film qui a pas d'âme. C'est un film de robot, là, mais c'est un peu ça. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de... Le côté humain, il n'est pas là, il n'y a pas de... Je m'identifie pas au personnage principal, tu sais. Je m'attache pas, j'ai pas peur pour lui, j'ai pas de crainte. Il est comme trop fort, il est trop dominant. Il est... Là, tu le sais que ça va bien finir, tu sais. Fait que tu suis la ride, puis c'est tout, tu sais. Tu acceptes le propos, puis tu te laisses emporter, puis c'est tout, tu sais. Mais t'as pas d'impact émotif. Tu cheers pas, tu sais. Tu prends pas pour le personnage, parce que tu sais qu'il est trop fort, tu sais. Les autres, c'est tous des humains. Puis toi, t'es un robot.
Contrairement au premier.
Ben oui, que là, ben, tu sais, il était, tu sais, d'un Robocop dans la version 2014. Écoute, Speedy, là, il court, il est avec sa moto, il est super fluide. Il y a d'ailleurs une scène dans le film où est-ce qu'on présente des gens qui ont eu des membres sectionnés, tu sais, comme les amputés de guerre un peu. Et on présente un gars qui a des prothèses aux mains, tu sais. Et le gars, il trippe sur jouer de la musique. Et on voit la prothèse en train de jouer. C'est magnifique, là, les images. Puis, tu sais, la fluidité, puis là, tu fais comme, OK, on est... Tu sais, si vraiment on atteint ce niveau-là avec les robots, là, ça va être comme tellement, là, ça accroche, là, tu sais, on va dire, ben, tu sais, coupe-moi les mains de suite, tu sais, mets-moi des mains de robot, c'est bien mieux, tu sais, on va sauver du temps, là, anesthésie, puis, ouais, coupe, tu sais, mets-moi des mains de robot, c'est bien mieux que l'être humain de base, tu sais.
Sauf que dans le premier, t'avais quand même un némésis qui était, ben, en fait, toute la gang, là,
finalement. Oui, c'est là. Ça, mais là, t'as pas ça dans celui-là, tu sais, puis Robocop, il est hyper rapide, là, tu fais comme, tu sais, dans le premier, il y avait la lenteur de Robocop, tu sais, le monde, il y avait le temps de gonner dessus, là, non, oublie ça, là, il est super vite, tu sais, t'as plus de crainte pour le personnage principal. Pas de némésis.
Ben, en fait, y a-tu au moins le gros robot là, avec les deux canons?
Ouais,
là,
ça, il l'a. On en voit dans la scène d'ouverture et on en voit vers la fin. Au total, là, on en voit 5.
Ok.
Je fais le calcul, là. Puis, tu sais, comme dans la scène du début, c'est pas, tu sais, une grosse implication. Puis dans la scène de la fin, Robocop est tellement fort que c'est pas, tu sais, sont là, mais finalement, il aurait pu ne pas y être. Tu sais, sont là pour rappeler le premier, tu sais. Sinon, il y a une scène entre autres, ok. Robocop, lors de son entraînement, gros hangar, tu sais, le visuel est écœurant. Il faut qu'il se batte contre comme 40 robots, tu sais. Puis il faut que, pas qu'il se fasse toucher, sinon il est reclassé, puis on le retourne dans l'usine. Fait qu'il se bat, écoute, contre les 40 robots, puis là, ben, tu sais, il y a un petit peu des scènes de. Tu sais, comme un first-person shooter, là, que tu caméras à la première personne, tu sais, là, tu vas tirer, puis c'est comme un écran, un peu à la Iron Man, là, quand on voit la face de Tony Stark dans le masque d'Iron Man, tu sais, il y a des informations, puis on voit le décompte, ok, il en reste tant, puis là, tu vois que, ok, ces mires sont là, puis hop, ok, c'est là, je vise. Pis c'est un gros hangar, plus il se déplace, puis tout va bien, tu sais. Puis à Mané, il y a une scène de combat où est-ce que, de un, les méchants ferment les lumières, ils se mettent toutes des visions nocturnes. On s'entend-tu que t'affrontes Robocop? Le gars, là, avec toute la technologie qu'il y a dans le casque, penses-tu qu'il a pas pensé à avoir une vue nocturne? On jase, là. Fait que ça sert à rien, si ce n'est de donner un beau visuel, et le combat se passe dans un corridor. Et Robocop, alors qu'il était dans un gros hangar, ça s'est super bien passé contre les meilleurs robots de l'univers. Là, il est contre des humains dans un corridor, puis là, il y a plus de misère. Tu sais, des fois, dès que tu grattes, tout le temps, dès que tu te poses des questions, tu fais OK, ça accroche. C'est questionnable, tu sais. Puis même la quête d'identité, tu sais, qu'on le retransforme en robot, que tu sais, il y a plus de contrôle sur lui-même, puis le but, c'est qu'il redevienne un être humain. La façon qu'on procède, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison, il n'y a pas. Tout ce qu'on avait dans le cadre du premier pour expliquer le cheminement, tout est comme évacué. Il n'y a plus ça, il n'y a plus ce. Oh, écoute, c'est un robot, mais t'sais, il reste des parcelles de l'être humain qu'il y avait dans le fond, puis là, on comprend que t'sais, sa mémoire est encore là. Là, on te l'aseptise au complet, on te le met au neutre, puis hop, il trouve la clé. C'est comme. Là, tu fais comme. OK, comment c'est arrivé? On n'a pas d'explication. En tout cas. C'est comme ça. Faut pas gratter. Faut simplement pas gratter.
Pas trop se poser de questions.
Non, c'est ça. Mot d'ordre. Cerveau à off. Si vous allez voir Robocop, je vais lui donner un 5. C'est pas mauvais, c'est pas bon. Vous allez peut-être capoter sur le film. Vous allez peut-être l'adorer. Mais ne pensez pas qu'on refait le premier de 1987 et qu'on vous le retranspose avec la technologie d'aujourd'hui. C'est pas ça pantoute. Il y a quelques thématiques, comme je vous ai dit, qui reviennent d'un film à l'autre. Des clins d'œil, la moto, le costume, le look de Robocop, qui, tu sais, qu'il y a des clins d'œil, tu sais. Mais c'est pas la même histoire. Mais loin de là, c'est pas la même approche, c'est pas le même cheminement scénaristique. C'est un autre film qui aurait pu s'appeler autrement que Robocop. On l'appelle Robocop, pourquoi? Parce que ça va vendre. C'est ça l'important. Faut que ça vende. Alors voilà.
Mais c'est décevant.
Oui. Moi, personnellement, je trouve ça très décevant. Et tu sais, on est présenté sur le site affairesdegars.com et comment ça s'appelle?
Philippe.
Philippe Michaud qui le critique, puis il va d'une très très bonne note. Puis je peux comprendre comment ce qui arrive à cette bonne note-là. Si toi, tu as été capable d'être touché par le personnage, de te voir dans le personnage, d'avoir un peu d'affection pour celui-ci, de prendre pour lui, ben oui, ça se peut que le film t'affecte positivement. Moi, j'ai vraiment pas vécu ça. Là.
Mais donc, est-ce que, mettons, je me prends moi, OK?
Tu fais pas dans le show, Daniel.
Non, je le sais. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair que le saut, il craque de partout. Puis de toute façon, je suis trop grand pour ce saut-là aussi. On s'entend. Aussi. Mais en fait, je veux savoir, mettons, tu prends moi, puis j'en ai d'autres aussi, d'autres de mes chums. On est des grands fans de la version de 87. Est-ce que, en étant des grands fans de la version de 87, ça va faire en sorte qu'on va être inévitablement déçu par la version de 2014?
J'aimerais ça te dire que non. J'aimerais ça, mais j'ai l'impression que oui. Parce que même si je t'arrivais avec toutes les bonnes intentions du monde en me disant c'est pas le même film, puis Tu vois les références, on essaie de vraiment se détacher. J'arrive à la conclusion de me dire, pourquoi vous avez pas pris un autre titre? Pourquoi? Ouais. Ça aurait été tellement plus simple. Vous auriez pas eu tous les fanboys, tous les ceux qui ont aimé le premier, qui ont grandi avec celui-ci, qui l'ont aimé depuis tellement longtemps, puis qui vont être... Ben oui, mais c'est pas ça qu'on... Ben c'est pas ça. Ben voyons, que tout le long, ils vont dire, ça, c'est pas ça, tu m'attends à... T'aurais évité ça. T'aurais évité le phénomène de comparaison, tu sais. Parce que
pour nous autres, Robocop, c'est la version de... 1987, tu sais. Fait que c'est pas ça qu'on veut retrouver nécessairement, mais en même temps, tu sais, c'est dur de se détacher de l'image du Robocop original, tu sais.
Oui, parce que c'est un film fort, c'est un film qui avait une âme, c'est un film qui avait un objectif, qui avait un but. Je disais ça l'autre fois, j'aime quand un film a un objectif, j'en veux pas 12, là, j'en veux pas 120. À la limite, là, tu sais, t'en as un, mais atteins ton but, OK? T'as un objectif, tu veux me présenter une affaire, fais-le bien. Dans lui, j'arrive pas à décortiquer qu'est-ce qu'on a voulu me présenter.
Mais c'est parce que ce que j'aimais dans le premier aussi, c'est le fait que, bon, Robocop, oui, évidemment, c'est un robot, mais en même temps, il est pas invulnérable, il est pas surpuissant non plus. Tu sais, on le voit à un moment donné, son système de visée est capote.
Ouais.
Puis il est plus capable là, de tirer comme il faut. Là. Fait que ça, j'aimais ça. Puis il faut dire en enfer aussi. Ils t'ont créé, dans le premier Robocop de 87, vraiment une gang ennemie que t'avais envie de voir être massacré.
Mais non, c'est ça. T'avais le goût que Robocop, les chiens sales, là, qui en mangent une sincère. Là. Tu voulais qu'il y ait Magan. Là, t'as pas ça.
C'est dommage. En tout cas, de la façon que tu m'en parles, je vais probablement le voir une fois qu'il va être sorti à Blu-ray, mais je m'attends à être déçu.
Pour vrai,
étant
là.
Étant fan de 87.
Tu sais, c'est une trilogie, OK? La première, au départ, là, c'était une trilogie. Le premier, pour moi, est un chef-d'œuvre. Le reste, tu sais, ça a diminué pour devenir un film grand public. C'était devenu un blockbuster par la force des choses, un peu comme Rambo. Le premier est tellement solide et tellement bon. Puis après ça, on a dilué le produit dans le deuxième et dans le troisième pour que ça devienne un film d'action grand public, tu sais. C'était loin d'être ce que les créateurs du personnage avaient en tête au départ. Robocop et Rambo, c'est à peu près la même problématique qui est survenue. Lethal Weapon aussi, tu sais, le produit a été dilué par la suite. Là, celui-là, là, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire une suite. Ben, dans le sens que je vois pas d'objectif à atteindre. Je vois pas de suite à ce qui pourrait survenir dans cet univers-là. C'est comme la boucle se complète, puis merci, bonsoir, on a fait le tour du sujet. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus. Parce que tu t'avais pas de Némésis, t'avais pas de. Tu vois que il est tellement fort, il règle tous les problèmes dans la ville. Fait que quand il reste plus de problèmes, il reste plus de film, là. Il reste plus de place pour une suite, tu sais.
Moi, je vote Robocop versus Batman.
Peut-être.
C'est quelque chose.
Ben, c'est distribué par Sony au Québec. Fait que peut-être Robocop versus Spider-Man.
Ah, oh, peut-être.
Peut-être, ouais. Vu que c'est un peu la même entreprise, mais bon.
Moi, je voterais Aquaman. T'sais, il peut rouiller Robocop.
Ah, peut-être. D'ailleurs, tu sais, je vous parlais, il sort d'un chandri. On s'entend que c'est des rizières, là, il y a de l'eau. Là, puis il débranche, hop, tombe à terre, il est dans l'eau. Là, tu fais comme, OK, il n'y a pas d'électricité. Il est imperméable. Il compte la pluie, tout va bien. Il est dans l'eau. Là, tu fais comme, OK, donne-moi des flamèches. Fait que, tu sais, il pogne l'électricité, de quoi? Non, du tout, il est correct. OK, bon. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, je vous disais que l'entreprise Omnicorp, eux, c'est des robots de police. Puis, tu sais, on s'entend que c'est de la grosse technologie. Puis là, aux États-Unis, ils sont pas capables de percer parce que les gens font pas confiance aux robots, tu sais. Puis tout le long du film, je me disais, la solution qu'ils ont trouvée est tellement plus compliquée que ce que dans la vraie vie, on ferait, là. Si j'étais Omnicorp, là, les gens n'ont pas confiance dans les robots, ben tu fais des robots qui font des affaires plus petites, puis tu gagnes tranquillement la confiance. Dans le fond, tu élargis tes façons de faire. Si t'es capable d'avoir des robots là, qui jouent à police, puis qui gunnent, puis qu'ils ont le livre de la loi dans la tête, puis que, tu sais, qu'ils sont capables de gérer la sécurité d'un pays, tu dois être capable de faire la vaisselle, tu sais. Tu dois être capable de faire genre, les devoirs des enfants. Tu sais, tu dois être capable de faire des affaires plus petites, puis vendre des robots aux particuliers pour qu'ils commencent à aimer les robots, puis là, ils voient plus ça comme méchant, tu sais. Fais ça, tu sais. Non, là, la solution, c'est que tu mixes de la robotique avec du biologique. Je sais pas comment tu fais ça, là. Mais dans ma tête à moi, c'est bien plus compliqué que de faire 100% robot, là. Puis en plus, au départ, les résultats sont moins bons. Fait que tu donnes plus de troubles, une solution plus compliquée pour un résultat moindre. C'est comme, là, tu fais comme, ah, je gratte trop. Je suis trop en train de me poser des questions. Arrête. Fait que là, j'ai arrêté, puis OK, je rembarque dans le film. Parce que dès que tu grattes, là, ça part en morceaux, là. Ça éclate, c'est fou, là.
Ouais. Des fois, faut pas ça. Faut pas que tu creuses. Tu mets ton cerveau à off, comme mon film de dinde.
Ouais. Robocop versus les dindes.
Ouais, Robocop versus the turkeys.
The turkeys in the past. Dans le passé. En tout cas. Bon, ben écoute, là-dessus, les boys, 5 sur 10 pour Robocop. À vous de voir si ça vous tente de perdre 2 heures ou de peut-être être enchanté. C'est peut-être moi le problème, peut-être, mais je penserais pas. Sur le web, les garnements, où est-ce qu'on vous retrouve? Daniel, vas-y.
Ah, deux façons. Ben, en fait, toujours les mêmes. Donc, la Bible. Non. Pas la Bible.
Vous allez en avant d'un miroir, vous allumez une chandelle et vous dites 10 fois Daniel Carosella. Daniel Carosella. Puis là, ben, l'incantation finit par fonctionner. Il va apparaître dans vos pensées et peut-être hanter votre maison.
Toi, t'as vu trop de Candyman. OK. Fait que, non. Deux façons. En fait, sur Twitter, @DracoADG. Donc, c'est la façon principale de me rejoindre et de me suivre dans mes tweets un peu
folies, là.
Non, mais folies. Sinon, sur affairesdegas.com, donc tu as mentionné tantôt JB. Donc, j'écris dans la section techno, sous-section jeux vidéo, sinon dans la section société au niveau de la criminalité. Donc, j'écris environ un article de criminalité par semaine, dont mon prochain qui va porter sur la Saint-Valentin rouge sang.
OK, dans le sens de meurtres qui sont survenus par compassion ou vraiment la journée de la Saint-Valentin?
Ouais, plus à la Saint-Valentin.
OK, ah, intéressant. Luc, toi de ton bord?
Vous pouvez me retrouver sur Twitter @Scalazormo. Il y a aussi mes sites, bon, cjuap.com, podcastauto.ca et le nouveau site de la réalité augmentée qui est à realityaug.com. Il n'y a pas grand-chose là-dessus, mais vous pouvez trouver le podcast. Puis j'écris aussi pour le blog de Kijiji. J'écris sur l'automobile, donc vous pouvez lire ça au fr.kijijiblog.ca dans la section véhicules. Vous allez voir, j'ai en ligne mon premier texte sur le Mazda CX-5 2014. Il y a un nouveau texte à tous les jeudis pour l'année. Donc, si vous n'avez pas assez de m'entendre et voulez me lire, juste à aller sur le blog de Kijiji.
C'est pour ça que je t'appelais le spécialiste auto, plutôt.
Ah, le spécialiste. La prochaine fois, je vais écrire sur les laveuses sécheuses et compétitionner avec M. Corbeil.
Le spécialiste.
Ou M. Tanguay. Là,
c'est ça, long.
C'est ça,
On peut
Oui. Mon grand.
Ben, ça vous tente encore. @gangj_b. Sinon, ben, je gère le Twitter de Réalité Hug. @RealitéHug. On a un Facebook. On a tous et toutes les clés, les trois, pour jaser avec vous autres. C'est possible. facebook.com/RealitéHug. C'est pas mal toujours Réalité Hug. On a l'adresse courriel, podcastrealitéaugmentée@gmail.com. Sinon, ben, on ajoute, j'ai l'impression qu'à tous les semaines, j'ajoute une nouvelle plateforme sur laquelle on est disponible. Ben, sachez que le projet de Yann Thériault qui nous accueille, Yann Thériault qui a son show qui s'appelle le Stream, qui est bien, bien populaire, et il a une plateforme de web radio avec plusieurs shows qui sont disponibles là-dessus. Ben, sachez qu'à partir de maintenant, nous sommes dans la grille horaire de podiumradio.com. Si on y va là, pour vous présenter la liste de diffusion, nous sommes diffusés je crois que c'est les vendredis en milieu d'après-midi.
J'essaie de trouver l'horaire. En tout cas, je vous en dirai ça avec plus de détails quand je le trouverai. Tout ça pour dire qu'on est présent là-dessus à partir de maintenant. Donc, ils sont bien gentils de nous accueillir. C'est toujours bien, bien fun de savoir qu'il y a des gens qui apprécient le produit et qui nous veulent dans leur équipe.
Bientôt, nous serons sur disque de vinyle, les cassettes 8 tracks.
Éventuellement, oui. Et peut-être qu'on fera le show en signaux de fumée, éventuellement, si la demande est assez grande.
Peut-être.
Ça viendra. Je ne ferme pas la porte. Donc, voilà pour cette autre édition de la réalité augmentée. Merci beaucoup, les garnements, d'avoir été avec moi.
Merci à toi d'avoir été là pour nous accueillir.
Ah, c'est toujours aussi agréable. Et on se dit à une prochaine fois. Merci, les auditeurs, d'avoir été de l'aventure. Et on se dit à une prochaine fois pour un autre épisode de La Réalité Augmentée. Salut tout le monde.
Bye.